entre les musulmans et les chasseurs orientales. J'ai réfuté totalement ce qui
se passe. Moi,
bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi. Le moratoire pour les artistes de petit commerce aux étrangers a expiré il y a 3 jours. Ce délai moratoire interdisait aux expatriés d'exercer le commerce en détail sur toute l'étendue de la République. Qu'avez-vous constaté dans votre milieu? C'est la question qui sera au centre du débat de Parole aux auditeurs d'aujourd'hui. Réagissez déjà. Notre standard est ouvert et inscrivez-vous pour participer à ce débat. Vos critiques, questions et préoccupations, nous les attendons dans pa@radiocapi.net et vous avez également la possibilité de nous appeler au 081 890 43 39. Et si vous pouvez, donc, vous avez également la possibilité de nous rejoindre sur notre page Facebook. Sylvain Matundou, Pierrot Elamegi et Titi Poutou réalisent cette émission présentée par J.M. Gembo sous la supervision de Nicole Ngata. Bienvenue à tous.
Chaque jour, la fréquence de la PMI le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Voilà, vous avez la possibilité de participer à cette édition. Nous contactons au 081 890 43 39. Nous aurons dans quelques instants Jean-Paul Nemoyato, ministre de l'économie nationale et commerce. Et nous vous rappelons que les débats d'aujourd'hui tournent autour de la question sur ce que vous avez constaté dans votre milieu par rapport au moratoire pour l'exercice de petit commerce aux étrangers et qui a expiré il y a 3 jours. Alors, pour rappel, ce délai moratoire interdisait aux expatriés d'exercer le petit commerce ou les commerces en détail sur toute l'étendue de la République et conformément à la loi de la politique économique nationale, cette loi de 1945. Voilà, donc nous aurons beaucoup de réactions comme vous les avez déjà envoyées sur notre page Facebook. Vous avez également la possibilité de le faire à notre adresse courriel pa@radiocapi.net. Et vous pouvez aussi donc le poster, comme je l'ai dit, vos préoccupations donc sur notre page Facebook. Aujourd'hui, à Kinshasa, c'est vrai, le secteur informel se porte bien, tout le monde est commerçant, tout le monde tient à ce qu'il puisse exercer réellement les commerces et aussi le commerce en détail, mais il se fait malheureusement que ces commerces ou ces secteurs est envahi selon les témoignages des uns et des autres par des expatriés et que selon la loi, donc, ces commerces ne pouvaient être exercés que par les nationaux. Voilà, donc nous verrons avec notre invité tout à l'heure, Jean-Paul Nemoyato, ministre de l'économie nationale et commerce, qui sera là pour répondre à toutes vos préoccupations, suggestions, questions et pourquoi pas vos réactions, donc, et vous pouvez déjà nous les envoyer au 081 890 43 39 et vous avez la possibilité de le faire par notre, disons, sur notre page Facebook, comme je l'ai dit. Et toute l'équipe est là pour vous aider à participer à ce débat qui tourne aujourd'hui autour du secteur informel, comme je l'ai dit. Et nous savons que beaucoup de ces spécialistes ont écrit sur le secteur informel qui normalement devait être formalisé. Vous avez des réactions, vous avez des propositions à nous laisser, à nous faire. N'hésitez pas. Donc, bienvenue est déjà en ligne. Bienvenue à l'appel des captains. C'est vous qui allez démarrer donc ce débat. Bienvenue, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Voilà, bienvenue. Vous avez appris comme nous que le moratoire pour l'exercice des petits commerces aux étrangers avait expiré il y a 3 jours. Comment réagissez-vous? Vous êtes à Cape Town. Est-ce que vous avez un commentaire à émettre par rapport à cette décision?
Ouais. Mon intervention est simple. Moi, je pense que je salue d'abord le ministre en passant et que je voulais ici préciser une chose. Les étrangers qui investissent chez nous dans les gros ou petits commerces, moi je pense que certains d'entre eux, la plupart d'entre eux, sont venus mettre but et ils se sont fait de l'argent chez nous au pays. Et que avant d'appliquer cette loi, que nous avons même étudié dans nos cours de droit et nos consorts, moi je pense que ce qu'il faut, c'est nous prendre des avantages. Il est préférable qu'on donne la chance aux autochtones, à nos frères et sœurs, de faire de l'argent à partir de petits commerces. Mais il ne faut pas oublier que ces étrangers qui viennent investir chez nous, 90% ont trouvé l'argent sur place. Et être étranger, cela ne veut pas dire que vous avez suffisamment de moyens, plus de moyens que les autochtones. Le ministre doit peser sur les désavantages plutôt que sur les avantages qu'on veut donner à nos frères congolais. Moi, je pense que ça.
Donc,
et puis, un autre problème, il y aura une certaine mauvaise foi de la part de nos frères expatriés. Tu sais, le petit bénéfice qu'ils faisaient en vendant en détail et à la fois en gros, ils pourront maintenant, si ils vont respecter la loi, ils vont hausser le prix et qu'il sera difficile à nos autochtones de vendre à bas prix quand ils achètent.
Oui, bienvenue. Selon vous, est-ce un problème de bénéfices ou peut-être d'une certaine discipline quand on exerce un commerce, même en détail, vous pensez que les nationaux seront autant de bénéfices?
Mais moi, je pense que tout travail attend un produit. Et le bénéfice, c'est les résultats même, c'est la finalité même de tout commerce. Et quand vous empêchez aux étrangers de faire le petit bénéfice qu'ils gagnent en vendant en détail, ils vont maintenant chercher à gagner en vendant en gros. Ça, il faut tenir compte de ça. Ça, c'est un peu pour perturber la situation économique au pays. Moi, je pense qu'il y a des lois qu'on ne peut pas appliquer, même si elles sont écrites ou couchées quelque part. Il y a des lois qu'on ne peut pas mettre en application, sinon ça va aggraver la situation économique du pays. C'est ça un peu ma préoccupation. Le ministre doit un peu mettre de l'eau dans son vin en appliquant cette loi. Moi, je pense que.
Voilà, donc vous demandez au ministre de mettre un peu d'eau dans le vin, parce que c'est important, hein, on risque d'avoir un effet boomerang, de manière à ce que les expatriés qui vont abandonner les commerces en détail, ils vont normalement, disons, spéculer en gros, et voire même faire des révisions de prix, des révisions de prix à la hausse. Merci, bienvenue d'avoir appelé de Cape Town. Malonga, vous êtes dans le Bandundu. Bonjour, Malonga.
Bonjour, Gilles.
Oui, et Malonga, comment réagissez-vous? D'abord, qu'avez-vous constaté dans votre milieu? Le moratoire pour l'exercice des petits commerces étrangers a expiré il y a 3 jours. Est-ce que vous avez constaté quand même l'exécution de ce moratoire?
Il n'y a rien de positif en faveur de la population. C'est ce que je veux dire, Gilles. Vous êtes là, les journalistes. Vous parcourez. Vous avez des informations très importantes de tous les pays. Je vous dis, ici à Bandundu, il y a les Indiens, il y a les Chinois, il y a aussi d'autres quartiers qui viennent aussi pour s'investir. Mais il n'y a rien de cette loi qui a été appliquée. C'est ce que moi je veux m'adresser à nos autorités. Nos autorités sont rapides à élaborer les lois, mais pour faire suivre ça, c'est très difficile. C'est comme si, après avoir élaboré les lois, il y a quelqu'un d'autre qui vient derrière eux pour les corrompre et ils laissent sans suivi comme ça. Mais qui souffre? C'est nous la population. Par exemple, moi, j'ai fait l'exercice aussi commercial ici. Mais je suis victime. Hein, j'achète le marchandise ou les articles aux Chinois, aux Indiens et aux autres expatriés. Mais au même prix, voire même le prix que j'ai acheté là-bas, ça sera aussi plus haute à eux. Vous voyez, au lieu de bénéficier encore le bénéfice, la population ou bien les clients vont s'adresser à eux. Vous voyez, cette loi protéger la vie sociale aussi. Mais le dirigeant laisse la loi comme ça sans avoir rigueur. Alors, je dis ceci, vous êtes là insisté. Ce n'est pas que si cette loi est en vigueur, alors on va pénaliser les autres. Non. Ailleurs, ce que nous déclarons, c'est ce qui est anecdotique. Mais pourquoi pas ça ne veut pas être anecdotique ici chez nous?
Oui, merci Malonga. Nous avons également Jules qui était à Congolo. Bonjour Jules.
Bonjour Pierre, bonjour à tous les auditeurs de la radio communautaire de Congolo, grâce à laquelle nous sommes en train de vous suivre à présent.
Oui, Gilles, qu'avez-vous constaté dans votre milieu par rapport à ce moratoire?
Oui, merci grandement M. Pierre d'avoir accepté ma participation à cette émission. À mon avis, je pense que accepter qu'un expatrié puisse exercer le commerce en détail, je considère ça comme une exploitation de l'homme par l'homme, n'est-ce pas? Cela est en train de contribuer généralement à la pauvreté dans laquelle est plongé l'homme congolais à présent. Il fallait que le gouvernement prenne ses responsabilités. Amen. Souvent, les expatriés se considèrent comme s'ils se trouvent sur une terre déjà conquise ou presque tout est permis. C'est parce que les membres du gouvernement sont en train de nous dire à présent qu'il faut qu'ils prennent des décisions. Et en faire aussi, n'est-ce pas, la poursuite ou le suivi. C'est ça.
Merci beaucoup, Jules. Nous rappelons à tous ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent nous faire parvenir également leurs réactions au 081-890-43-39. Nous avons déjà notre invité dans ce studio, mais on termine d'abord cette série des auditeurs avec Jean qui est à Kinshasa. Bonjour, Jean.
Bonjour, monsieur le journaliste, je salue aussi le ministre Excellence qui est déjà là. Merci beaucoup.
Oui, Jean, qu'avez-vous constaté dans votre milieu par rapport à ces moratoires?
Oui, il n'y a rien encore jusque-là. Il n'y a rien qui s'est fait, on constate rien. Nous sommes seulement comme avant, jusque-là. Alors, moi, je suis un peu contre notre intervenant, l'heure qui disait qu'il faut mettre un peu du vin dans. Non, amen. Une loi déjà qui a été votée, une mesure qui a été déjà prise. Mais il faut qu'on apprenne. Parce que ce que nous vivons ici, on dirait que c'est un enfer. Pourquoi? Parce que même nos frères qui travaillent auprès de ces soi-disant grossistes ou bien de ces Libanais, de ces étrangers qui exercent des petits commerces en détail, nos frères souffrent beaucoup parce qu'ils travaillent, on dirait des robots. Dimanche, juste soir, avec quel salaire et misère. Moi, je voulais encourager les ministres qu'ils puissent appliquer cela dès que cela a été pris comme mesure. On doit vraiment mettre ça en application et surtout, c'est le suivi. Parce que nous constatons que dans notre pays, on ne fait pas des décisions, on fait prendre des mesures et des mesures. Mais l'application, le suivi de cela pour que cela se pérennise. Donc, c'est ce que je vais demander au ministre de mettre l'accent là-dessus et de faire le suivi jusqu'à ce que tout cela sera plutôt dématérialisé jusqu'au fin fond de nos villages.
Merci beaucoup, Jean, d'avoir appelé à Kinshasa. Et vous qui nous rejoignez, bienvenue à Radio Okapi.
Parole aux auditeurs.
Jean-Paul Nemoyato, vous êtes ministre de l'économie nationale et commerce. Bonjour.
Bonjour Gilles.
Voilà, vous êtes en studio et aujourd'hui nous parlons de ce moratoire qui a expiré il y a 3 jours d'ailleurs. Et vous avez suivi tout à l'heure les auditeurs qui ont contribué à ce débat. Ils ont insisté pour dire jusque-là ils n'ont rien constaté sur le terrain. Vous aurez d'ailleurs tout à l'heure une réunion avec les partenaires qui exercent d'ailleurs qui investissent dans notre pays et qui par un gaucher exercent les petits commerces qui sont aujourd'hui frappés par cette loi. Alors vous aurez à évaluer sûrement. Et que répondez-vous aux uns et aux autres, en tout cas par rapport à toutes ces interventions?
Je vous remercie, surtout la radio Capi, qui accorde une importance particulière aux problèmes sociaux de la République. Et depuis que nous sommes au gouvernement, surtout, comme je l'ai dit, il a plu au chef de l'État de me confier ce ministère de l'économie et du commerce. Nous n'avons rien inventé. Parce qu'il s'agit, comme d'autres ont dit, d'une loi qui existe depuis 1973. Moi-même, je n'avais que 4 ans. et que, de manière un peu beaucoup plus croissante, progressivement, on a assisté à la violation de l'esprit et la lettre de cette loi par les étrangers, les expatriés qui arrivent et qui bénéficient de notre hospitalité, mais qui ont déjà le droit de faire le commerce d'importation, de faire le commerce de gros, et la loi leur donne même la possibilité de faire le commerce de début gros. Et comme si cela ne suffisait pas, ils vont jusque dans le commerce de détail. C'est pourquoi, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, que dans les soucis de créer la classe moyenne congolaise, de créer le capital congolais, la loi a voulu accorder l'exclusivité du petit commerce et le commerce de détail aux Congolais. Et donc, ça, c'est depuis 1973. Mais les abus de la part de nos partenaires étrangers ont été tellement graves que vous avez vu l'année passée. À l'époque, c'était M. Mouzitou qui était le premier ministre. Il n'avait pas sommeil du fait qu'à un moment donné, les Congolais se sont mobilisés pour faire des marches. Et que cela a conduit le premier ministre à prendre les décrets au mois de le 11 octobre 2011. Mais nous sommes arrivés, on a trouvé ces dossiers sur la table. Parce que certaines personnes disent que les autorités congolaises votent des lois et n'appliquent pas. Mais c'est justement dans le souci d'appliquer des décisions qui ont été prises par le gouvernement et en vertu de continuité des services publics, j'ai récupéré le dossier. Et maintenant, comme je l'ai dit, j'avais en fait accordé un moratoire d'un mois qui courait du 22 juin au 22 juillet. Sous cette période de moratoire, c'était une approche purement pédagogique parce qu'il nous était amené le ministre, le membre du cabinet et même de l'administration de l'économie à faire la sensibilisation pour que nous puissions alerter, donc expliquer aux uns et aux autres, n'est-ce pas, l'esprit de la loi. C'est ce qui m'a amené, par exemple, je suis rentré au Bas-Congo. Donc, je suis allé au Bas-Congo le jeudi, le vendredi de la semaine passée. Je suis arrivé et j'ai fait la sensibilisation parce qu'on était encore dans le monde emploi. Le samedi, le jeudi, je pense avoir suivi des images à la télé. J'ai reçu, j'étais en pourparler avec nos amis de Coupe-Méco et des autres structures. Le samedi passé, j'ai échangé avec les Indiens, avec la secte d'une manière générale, et avec les Indiens et les Chinois, et j'ai même reçu à l'hôtel pour qu'on échange avec eux. Je leur ai expliqué à des termes simples que vous pouvez tout faire, sauf le commerce de détail et le petit commerce.
Voilà, il y a Jean-Pierre qui est à Dungu, Patrick Akikuit, et puis l'ingénieur Mangoyo Akikata. Bienvenue à tous. Jean-Pierre, vous êtes à Dungu, bonjour.
Bonjour.
Oui, Jean-Pierre, comment réagissez-vous?
Oui, merci beaucoup. Il s'agit d'avoir notre invité, c'est-à-dire tous les auditeurs de la radio Café. Alors, ce qui me concerne, je voulais d'abord préciser un peu le fait de marquer l'application des fêtes au Congo. Voyez-vous, depuis 1973 et jusqu'au jour aujourd'hui, on n'a jamais appliqué ce test, hein, et le nouveau ministre qui arrive, il va l'appliquer. En tout cas, je l'encourage, et surtout, je lui souhaite confiance, et c'est là qu'il a arrivé au bout, et que le texte soit rigoureusement appliqué, en tout cas, qu'il soit béni. Moi, j'avais une question au sujet des autres qui sont ici à la frontière avec le Soudan, l'Ouganda et la RCA. Il y a des expatriés qui viennent ici chez nous, peut-être pour une semaine, deux semaines, de prendre leurs produits. Est-ce qu'il faut leur interdire de détailler leurs produits parce que nous autres, nous faisons la même chose, des fois nous partons chez eux, nous partons détailler nos petits produits sur leur marché, nous partons aussi dans notre pays. Dans ce cadre-là, quelles mesures vont faire, y a-t-il le fait d'en prendre?
Merci beaucoup, Jean-Pierre. Patrick, vous êtes à Kikuit. Bonjour, Patrick.
Ouais, bonjour, Radio Capi. Bonjour à notre invité. J'avais juste une préoccupation pour dire ceci. En fait, ce que j'allais dire, c'est que le Congo a toujours eu un problème que tous nous devons connaître, un problème de l'application de nos lois. La loi a été déjà là depuis 1945, disons. Et jusqu'à nos jours, il y a, plus particulièrement là où moi je vis, c'est hier soir que j'étais en ville, il y a les expatriés qui, jusqu'à ce jour, ils continuent toujours à vendre à faire plutôt le petit commerce. Mais entre guillemets, il y a la sensibilisation que j'ai aimée, qui est déjà en vigueur. On a eu à sensibiliser tout le monde pour ne pas dire que non, il fallait plus commencer et plutôt continuer à exercer le petit commerce. Mais, mais il y a sur le terrain, on leur a donné 3 jours. Et les 3 jours a été déjà fort clos. Et à la preuve du contraire, on arrive toujours à continuer à faire le petit commerce jusqu'à ce jour. Ce que j'aimerais maintenant savoir, demander à notre invité de me dire quelle est la procédure après qu'il faut faire la sensibilisation par rapport à l'exercice de petit commerce et que les expatriés n'arrivent pas toujours à comprendre et ils continuent toujours à l'exercer. Quelle est maintenant la procédure à suivre juste après? Et c'était ma préoccupation. Et ce que j'allais seulement ajouter, c'est que les Congos doivent arriver à prendre conscience en toutes choses et pour tout. Dans ce sens que cela ne servirait absolument à rien d'avoir de lois et de lois et de lois que nous n'arriverons jamais à les mettre en pratique. Si tel n'est pas le cas, ça ne sert à rien. Alors, si au moins, il serait mieux plutôt des retours de loi, mettre de loi sur pratique et chercher à sensibiliser et à le mettre en pratique. Donc c'était juste ça, mon ajout et ma préoccupation.
Voilà, merci Patrick. Là, nous rectifions une chose, les moratoires n'étaient pas de 3 jours, hein. C'était de 22 juin au 22 juillet, donc pratiquement un mois. Et vous avez évoqué également la question sur l'applicabilité de loi, donc notre invité est là pour répondre à cette préoccupation. Général Mangoyo, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur Jérémy.
Voilà, comment réagissez-vous, Général Mangoyo?
Oui, moi, je voudrais intervenir à deux niveaux. Il y a d'abord, je salue le ministre qui est notre invité. Il y a d'abord un amont et un affaire. On parle du petit commerce. C'est-à-dire, est-ce que le ministre peut nous dire quel type de produits qui est interdit aux étrangers de vendre? Parce que moi, à Kinshasa, je ne sais pas s'il y a d'autres coins, cela existe. Moi, je suis à Kinshasa, je n'ai pas encore vu un seul expatrié en train de vendre des cacahuètes, en train de vendre des mangues, en train de vendre, c'est pas moi quoi d'autre. Il faut que le ministre nous dise quel type de produit qui est interdit aux étrangers de vendre. Ça, c'est un. De deux, est-ce que, en amont, tout le monde sait que pour voyager, pour aller à l'étranger, pour obtenir un visa, il y a toute une procédure qu'il faut respecter. Est-ce que, au niveau du gouvernement, tous ces étrangers qui arrivent, qui viennent ici, est-ce qu'en amont, on leur demande qu'est-ce qu'ils viendront faire à notre décès, quelles sont leurs capacités, tout ça, pour qu'on puisse voir les étrangers qui viennent comme ça exercer aussi le petit commerce. Ça, c'est au niveau de l'octroi de visa pour les étrangers qui entrent en RDC. Et ensuite, le ministre parle des choses de la classe moyenne. C'est bien. Moi, à ce qui concerne le petit commerce, je vois souvent quand j'entre dans les magasins, en ville, sur la zone de commerce, vous voyez, dans un seul magasin, il y a le gros, il y a les détails, et il y a les petits de gros. Donc, demi de gros. C'est tout ce que moi je vois. Je ne sais pas si les autres voient autre chose. Est-ce que cette classe moyenne-là, je voudrais poser la question au ministre, quelles sont les mesures de citation que le gouvernement prenne pour justement encourager cette classe moyenne-là? Parce qu'aujourd'hui, nous risquons. Je ne suis pas opposé, moi. Je voudrais bien que mes compatriotes, les autochtones, exercent sur le petit commerce. Je suis d'accord. Mais est-ce que les Congolais ont-ils les moyens nécessaires pour justement exercer cela? Parce qu'on risque, la loi est faite par les hommes est pour les hommes. Il doit être adapté, à condition que le ministre qui s'entoure avec son cabinet, qui réfléchisse, voir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'on risque aujourd'hui, c'est Congolais qui est démuni, qui n'a pas le moyen, qui n'ont pas de crédit. Aujourd'hui, on leur dit, voilà, les étrangers, vous ne vendez plus, et c'est le tout, sans pourtant d'abord recenser quel type de produit. Nous risquons que cette loi puisse se retourner contre nous, contre les autres Congolais,
contre
et tout, peut-être déranger encore le système commercial et économique. Donc moi, je pense qu'il faut que le ministre réfléchisse très bien, place moyenne, c'est bien, et quelles sont les mesures de situation qu'on doit accorder aux Congolais pour qu'ils puissent bien exercer aussi ce petit commerce-là.
Voilà, merci Ingénieur Mangoyo d'avoir appelé de Kinshasa. Nous allons accorder la parole à notre invité, Jean-Paul Demoyato, ministre de l'économie et du commerce.
Oui, merci beaucoup, Gilles. J'aimerais faire une observation. Je ne sais pas, parce que la méthodologie, c'est un problème. Vous avez déjà pris deux séries d'intervenants. Alors que j'étais en train de répondre, n'est-ce pas, à la première série, voilà que vous avez pris la deuxième série.
Oui,
et donc, j'aimerais bien que l'invité, il faudrait qu'on dise la vérité à nos téléspectateurs, de sorte que si vous constatez, quand ils agissent comme ça, c'est que c'est une question centrale qui préoccupe plus d'un Congolais. Et donc, d'une manière générale, si je peux revenir sur la première série, que ce soit mon ami qui a appelé de Cape Town, un autre ami a appelé de Bangui, Jules a appelé la partie de Congolo et Jean a parti de Kinshasa, ce qu'ils ont dit de commun, c'est que rien. Les lois existent, mais rien. Le moratoire est terminé, mais sur le terrain, on ne voit rien. Effectivement, au stade actuel, ils ne pouvaient peut-être pas encore voir quelque chose. Je parle d'un principe. Le pouvoir, pendant très longtemps, a commencé à se plaindre. Mais je parle d'un principe que le pouvoir ne se plaint pas, il s'exerce. Et donc, peu importe, je n'ai pas à culpabiliser ceux qui ont occupé cette fonction avant moi. Non, ce n'est pas ça ma préoccupation. Mais je sais que je fais partie d'une équipe gouvernementale dont l'approche de travail, c'est action-résultat. Si je suis allé au Bas-Congo, ce n'est pas une promenade de santé. Et le Premier ministre Matata, lui-même m'a rejoint au Bas-Congo. Ce qui fait qu'il y a des actions urgentes que nous sommes en train d'entreprendre avec des résultats attendus. Et vous êtes de la presse, d'ici les 100 jours vont échoir bientôt. Je voudrais que, comme la feuille de route, les 100 jours sont affichés même dans le site internet. Le président a demandé, le président de la République a demandé qu'on rende ça public. Les parlementaires, la population, tout le monde nous suit. Et donc, je vous exhorte, n'est-ce pas?
Oui, mais M. Malonga avait insisté sur un aspect, je crois que sur la corruption, ces expats, quand ils arrivent, c'est vrai, il y a une feuille de route qui est présentée, et ça va quoi déjà s'en tenir. Bon, finalement, dans l'exercice de ces commerces, il y a toujours des déviations et aussi le non-respect de cette feuille de route, parce qu'il y a ce que nous appelons la corruption, je mange, tu manges, ils mangent, nous mangeons et vous mangez, bon voilà, et on s'était, et la loi est étouffée.
Il faut quand même accorder la présomption de bonne foi aux membres du gouvernement qui viennent à peine d'arriver. S'ils pensent de quoi vous voulez me juger sans que je m'agisse, sans que je puisse, en fait. Et quand je commence, au lieu de m'encourager, mais vous me découragez. Ce matin, aujourd'hui même, nous venons des affaires étrangères, au Salon Rouge. Nous venons de prendre un engagement sur le code de bonne conduite de l'agent public. S'il y a la corruption, mais il y a des organes, il y a les cours des tribunaux, il y a le Parlement qui est l'organe de contrôle. Donc, nous sommes disposés à être contrôlés. Alors, revenons donc à la question. Ce qui fait que pendant le moratoire, nous étions dans une approche pédagogique et de sensibilisation, et cela a pris fin le dimanche. J'étais à Matadi. Le lundi, j'ai poursuivi ma mission à Matadi, donc dans le cadre du désengagement du port, parce que j'étais à côté du Premier ministre. Le lundi, qu'est-ce qui s'est passé? Les Indiens, les Chinois, qui sont à Matadi et qui me suivent maintenant, il y a eu des consommateurs qui sont allés pour acheter en détail. Ils ont adhéré à notre logique. Ils disent non, le ministre nous a réussi et nous a demandé de ne plus vendre en détail. Je vais vous expliquer le problème parce que bientôt on va faire l'évaluation.
C'est aujourd'hui d'ailleurs que voilà. Vous allez rencontrer les partenaires.
Je suis rentré immédiatement. Je suis arrivé ici à 20h parce que j'ai demandé à rencontrer les partenaires socio-économiques du gouvernement, la SEC, la COPINECO, les associations des consommateurs. Donc, à 12h, nous allons nous réunir. Je pense que la radio Okapi est conviée à cette offre. Donc, nous voulons faire l'évaluation du moratoire, de la sensibilisation. Mais je peux vous dire que, en réalité, que ce soit le revendeur congolais, les petits commerçants, comme on les appelle, que ce soit les Indiens, les Chinois, parce que j'ai parlé avec quelques-uns, je me suis rendu compte que le vrai problème, je ne peux pas prendre le risque de dire que les étrangers sont systématiquement de mauvaise foi. Non, non. En réalité, les problèmes que j'ai constatés lors des sensibilisations, parce que après les sensibilisations, ma stratégie était toujours de recevoir, groupe par groupe, ces différentes corporations, pour que on échange avec eux et que je trouve aussi ce qu'il y a derrière la tête. Voici les questionnements de la plupart des étrangers. Ils ne savent pas concrètement. Quand nous disons commerce de gros, ça veut dire quoi? Commerce de semi-gros, c'est quoi? Commerce de détail, c'est quoi? Et donc, on m'a posé des questions telles que, quand vous vendez des gilets, alors, qu'est-ce qui est commerce de détail? Est-ce que c'est l'unité des gilets, la petite gilette? Est-ce que c'est le petit carton, le petit paquet qui a 10 pièces à l'intérieur? Est-ce que c'est les cartons moyens à l'intérieur desquels on trouve d'autres petits cartons? Quand vous vendez le ciment, qu'est-ce qui est gros? Qu'est-ce qui est semi-gros? Qu'est-ce qui est détail? Le sucre. Quand vous vendez le sucre, vous faites le commerce du sucre. Quelle quantité peut-on estimer gros, semi-gros et détail?
Et c'est pourquoi voilà, l'ingénieur Mangoyo a insisté pour dire quels sont les produits qui font l'objet du commerce en détail.
Oui. C'est pourquoi, au cours de la réunion de tout à l'heure, nous allons faire une comité constituée de mon cabinet, de l'administration, parce que je dois toujours être là, de membres de la SEC, de COPINECO, pour que nous puissions élaborer, s'il vous plaît, ce qu'on appelle la nomenclature, n'est-ce pas, de la nomenclature de biens. C'est-à-dire qu'on doit préciser à des termes simples. Pour les commerces, par exemple, du sucre, on peut considérer que on prenne le commerce du gros comme celui qui va en...
Donc, des produits de première nécessité.
En fait, celui sucre... Je prends un exemple. Il y a beaucoup de produits. Chaque produit a ses particuliers. Tout ça, son particularité. Donc, si on prend, par exemple, le sucre, on peut considérer, par exemple, que celui qui vend en sac, parce que dans le sac de sucre que produit Kilongongo, à l'intérieur, vous avez 10 sachets de 5 kilos. Alors, on peut considérer que le gros, c'est celui qui vend en sac, mais c'est le gros, c'est celui qui vend le demi-sac et qui contient 5 sachets de 5 kilos. Et donc, c'est lui qui vend en sachet de 5 kilos ou en dessous, c'est celui-là qui est dans le commerce des détails. Alors, si on prend ces commerces, dans cet exemple, on peut considérer que les étrangers, les expatriés, ils peuvent commercialiser le sucre en gros, c'est-à-dire en sac de qui contient des kilos, ou bien en semi-gros. Mais il est interdit de vendre un sachet de 5 kilos et voilà un cas. Si nous prenons comme le ciment, j'ai dit ça comme ça parce qu'on va échanger avec...
Juste pour faire une idée aux auditeurs.
Alors, on peut considérer que...
Il y a bon nombre de consommateurs qui ne peuvent pas faire la différence.
Celui qui vend en gros, c'est celui qui vend en tonne. N'est-ce pas?
Donc, la nomenclature...
Vendre le ciment
un sac de 50 kilos, ça c'est déjà les détails, et donc les étrangers ne peuvent pas faire ça.
Il y a une inquiétude d'un auditeur, je trouve que c'est une inquiétude très pertinente, qui parle, j'ai l'homme qui a parlé de crédit, parce que c'est vrai, il faut des mesures d'accompagnement de cette loi. Aujourd'hui, c'est vrai, les Congolais sont démunis, selon lui. Il faudrait que le ministère de l'économie et du commerce puisse être un peu regardant de ce côté-là. Ça semble tous d'ailleurs à vous poser la question, parce que ces partenaires, quand ils arrivent, monsieur le ministre, en principe, ils arrivent avec des crédits, hein, ils investissent. Ils obtiennent des crédits auprès de CIM et puis d'autres partenaires. Mais chez nous, pour exercer ces commerces, ils sont encore de moyens. Est-ce que vous avez pensé à ce genre de mesures d'octroi des crédits, encourager ceux qui veulent faire le petit commerce? Parce que nous devons dire, beaucoup de gens sont versés dans le petit commerce par rapport à la survie, parce qu'il faut vivre, c'est la pauvreté qui bat son plein.
Oui, je suis quand même enseignant à l'université. Mon approche, je venais de terminer la première série parce que la deuxième question là, ça fait partie de la deuxième série. Donc, tellement que vous insistez, j'ai vu justement.
Non, c'est pas vrai.
En fait, il a raison de dire qu'il faudrait quand même préciser les types de produits pour lesquels les interdits et les étrangers sont interdits. Non, c'est peut-être le contraire. Nous avons, quand vous prenez le décret du Premier ministre, en fait, à l'article 2, vous voyez qu'il fait même l'exception du fait qu'il donne l'ouverture aux étrangers de faire les commerces de détail pour les produits qui sont spécifiés à l'article 2. Par exemple, le carburant. Ils peuvent le vendre en ligne, ça c'est les détails. Au niveau des supermarchés, les étrangers qui investissent dans ce secteur, ils vendent en détail, n'est-ce pas? Il y a encore au niveau, par exemple, les pièces de rechange. Quand vous êtes sur l'avenue Victoire, vous voyez des magasins de pièces de rechange. Dans la plupart des cas, tous ces gens-là ça ne pose pas de problème. Mais pour tous les autres produits, et les étrangers ont la liberté de faire les commerces d'importation, ils peuvent faire les gros, les semi-gros, on leur demande seulement de ne pas vendre en détail. Parce que le grand problème, c'est quoi? Il y a certains importateurs étrangers qui font venir des conteneurs, mais à l'intérieur du pays, ils n'ont pas de dépôt. Et donc, lorsque leurs importations arrivent, ils vendent directement aux consommateurs. Ça, c'est ce que nous déplorons. Alors, maintenant, j'en arrive à la question. Si nous dégageons cette possibilité de faire le petit commerce ou le commerce de détail par les Congolais et pour les Congolais, alors, quelles sont les dispositions qu'on a prises pour que, effectivement,
l'octroi des crédits, par exemple,
soit détruit? Je vous dis que dans le programme du gouvernement qui a été présenté à l'Assemblée nationale, il y a une option phare qui a été prise par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le programme des microcrédits. Et au moment où je vous parle, le Premier ministre chef du gouvernement, avec le ministre des Finances et le ministre du Budget, le vice-ministre et le ministre du Budget, sont en train de voir comment mettre en place le programme de microcrédit. Parce que nous avons fait des études, par exemple, nous inspirant de l'expérience des autres pays, au Bangladesh par exemple, on a constaté que grâce au microcrédit, on donne $100 à un paysan, il s'épanouit très vite. Nous sommes aussi en train de vraiment partir sur ce
plan. Le gouvernement va s'y pencher. Merci beaucoup, Jean-Paul Nemoyato, ministre de l'économie et du commerce. Nous allons prendre une autre série des auditeurs qui vont intervenir tout à l'heure, en rappelant d'ailleurs que ceux qui veulent nous faire parvenir leur réaction, ils peuvent le faire à pa@radiocapi.net ou encore nous appeler carrément au 081 890 43 39.
Écho d'économie. Sur Radio Capi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Merci de votre fidélité à Radio Capi. Bavon, vous êtes en Bujimaï. Bonjour, Bavon.
Bonjour, J.R.
Comment allez-vous?
Je salue tous les auditeurs de la Radio Capi et je salue aussi tous les invités qui sont au studio. Je sais que ici à Bujimaï, le moratoire est terminé, ce que vous l'avez dit, il y a 3 jours. Mais sur les marchés, on voit, on n'a rien observé. Les expatriés vont toujours en détail. Et je sais une chose que nous connaissons très bien, l'homme politique congolais. L'homme politique congolais, quand il veut se faire un nom ou quoi, il a, je dirais, ce que j'appelle le chapelet de bonne intention. Le ministre, il est là, il parle bien, mais le problème est que, et nous connaissons bien nos hommes politiques. L'homme politique congolais, quand il veut se taper l'argent, il peut élaborer une loi. Dès que les expatriés entendent qu'il y a une loi qui est élaborée en leur défaveur, ils vont se cotiser, ils vont cotiser l'argent pour donner à ce ministre afin qu'il se taise. Parce que nous le voyons souvent, il y a des lois qui sont faites même la Constitution. Elle nous dit que non, le Congolais, il a droit à revendiquer une chose qui n'est pas bon droit. Alors, nous voyons que les expatriés, toujours les mêmes expatriés, ils ont engagé nos frères. Ils travaillent dans leurs compagnies, dans leurs entreprises, mais ils les payent moins. Dès que ces travailleurs veulent revendiquer, par exemple, que nous voulons marcher, vous revendiquez que là où on revoit quand même notre...
Oui, Bavon. S'il vous plaît, Bavon, en fait, le salaire de ceux qui travaillent auprès des expats, ça c'est un autre sujet, on peut peut-être l'aborder prochainement, mais aujourd'hui nous parlons de l'exercice de commerce en détail. Après, aujourd'hui le moratoire a expiré, est-ce qu'en Bujimaï, qu'est-ce que vous avez constaté et quel est le commentaire que vous faites par rapport à ça, par rapport à cette loi?
Rien n'a changé, c'est toujours la même situation qui se passe, ce que je vous disais. Et que nos hommes politiques, surtout ceux qui sont au gouvernement, vous savez que pourquoi on les appelle les excellents. Ils ont excellé dans des stratégies de s'exploiter l'argent, et les exploiter aussi l'argent et leur donne comme ça, ils se pègent et puis c'est fini la loi passe.
Donc c'est ça votre inquiétude, hein. Donc c'est ça votre inquiétude. Vous craignez que cette loi ne puisse pas donc puisse souffrir quand même de l'exécution sur le terrain par rapport à cet aspect que vous avez évoqué et que les autres aussi ont évoqué, d'autres intervenants ont évoqué précédemment. Merci Bavon. Dadi, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Dadi.
Oui, bonjour J.R. Bonjour son excellence.
Et comment réagissez-vous?
Oui, j'ai une petite préoccupation par le passé. C'était le premier ministre Adolf Mouzito. Aujourd'hui, c'est son excellence Nimoyato. Mais ma préoccupation est la suivante. Son excellence, quelles sont les mesures d'accompagnement de ces moratoires? Et bien, qu'adviendra-t-il de Ritafita à ce moratoire? Et troisièmement, à cas de non-respect de ce moratoire, qui sera tenu pour responsable? Est-ce le peuple congolais? Est-ce les expatriés ou l'autorité qui a institué ce moratoire? Alors moi, je ne vais pas ici relancer le débat. Je suis d'avis que son excellence maîtrise bien nos lois et qu'il y a... En matière d'exercice de petits commerces dans notre République démocratique du Congo, en principe, il est interdit à tout étranger de pouvoir exercer les commerces, les petits commerces. Mais néanmoins, exceptionnellement, un étranger qui a payé un montant de 1000 dollars, équivalent à 1000 dollars, et exercer un petit commerce. Je ne sais pas si son excellence est au courant de cette disposition. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Dadi. Kambinga, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Kambinga.
Très bonjour, monsieur.
Oui, Kambinga, comment réagissez-vous?
Bon, moi je me dis que je crois que le débat qu'on soulève aujourd'hui sur la mise en application de cette loi 73, c'est vraiment un faux débat et c'est une distraction. Cette loi de 73 est consécutive à la mesure des arrêts d'intention. Si le gouvernement de l'époque n'avait pas mis en application cette loi-là, c'est parce que tout simplement on s'est rendu compte des conséquences catastrophiques et néfastes sur l'économie du pays en ce moment-là, lorsqu'on a arrêté le bien des étrangers. Donc aujourd'hui, il est malheureux de voir que nous revenons sur ça. On veut créer une classe moyenne congolaise. Déjà à l'époque, lorsqu'on a arrangé les biens des étrangers, c'est pour cet objectif-là. Qu'est-ce qu'on en a fait? Rien du tout. On a créé la société. On a mis en place la BCA. Aujourd'hui, on parle de microcrédit. Mais rien n'a changé. Donc, moi, je considère que il est malheureux de penser qu'aujourd'hui, nous pouvons relancer l'économie de ce pays en prenant ce genre de mesures. Nous avons démontré par l'histoire que nous ne sommes pas en mesure de nous lancer dans les grands commerces. Dites-moi, il y a combien de Congolais qui ont réussi leurs propres affaires depuis l'indépendance? Donc moi, j'estime qu'aujourd'hui, le gouvernement a mieux à faire de s'occuper de ce genre de détails. S'ils ont mis en place un système de microcrédit, tant mieux qu'on le fasse, mais qu'on ne dérange pas inutilement les expatriés, parce que s'ils partent aujourd'hui en catastrophe, vous connaissez les conséquences. Les étrangers n'empêchent pas les Congolais de faire les importations, en gros. Les étrangers n'empêchent pas le Congolais de se lancer, de créer la petite et moyenne entreprise. Mais il ne faut pas que nous puissions toujours trouver que nos malheurs viennent des autres.
Oui,
c'est le départ des responsabilités dans tout ça.
Oui, comme dit là, je répète une chose. Vous en fait, votre inquiétude tourne autour de boucs émissaires cherchent souvent les Congolais, hein, quand ils ne marchent pas à leur niveau. Mais il y a également une question, donc si je comprends bien, vous demandez à ce que l'économie nationale puisse fonctionner avec un service de contrôle mis en place qui fonctionne en plein régime, et ça pourrait épargner quand même certains problèmes à l'aval.
Ce service de contrôle existe. J'étais des cabinets au ministère de l'Intérieur. J'étais conseiller au ministère de l'Économie. Je sais de quoi je parle. Vous comprenez?
Voilà,
moi, je considère qu'aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas perdre son temps dans ce genre de détails. S'ils ont pris des mesures importantes pour lancer le microcrédit, tant mieux que le fassent. S'il y a des compatriotes qui peuvent exceller à partir des microcrédits pour se lancer dans le commerce, c'est une très bonne chose. S'ils créent une classe moyenne congolaise, c'est une très bonne chose. Alors qu'on laisse les expatriés tranquilles. Pourquoi vous pouvez vous bénéficier?
Kaminga, qu'est-ce que vous proposez concrètement aujourd'hui?
Parce moi, que je considère que c'était un faux débat.
Mais qu'est-ce que vous proposez à la place?
Mais je considère que, logiquement, si nous faisons option de créer la classe moyenne congolaise en l'octroyant de crédit pour s'acheter leur main, ce qui les fasse. Elle qu'on crée pas un autre problème inutile de voilà, si ça marche pas aux étrangers, non.
Voilà, merci Kaminga d'avoir appelé le Kinshasa. Clément, vous êtes à Mbujimayi. Bonjour Clément.
Bonjour, Olivier.
Oui, Clément, comment
je vous remercie pour la parole et je remercie notre invité de répondre directement au studio. Je voudrais demander au ministre ceci. Cette loi date de très longtemps et nous le remercions parce qu'il a eu le courage de pouvoir se prononcer là-dessus, parce qu'il y a des féministes qui sont passés à cette fonction, mais ils ne se sont jamais prononcés. Nous lui jetons de fleurs. Mais le problème est sur l'applicabilité de cette mesure. C'est ça le grand problème avec le Congo. Donc, la loi peut être là, mais l'application, c'est ça le plus grand problème. Et non seulement ça, et il y a aussi le problème de la sanction après avoir pris la loi. Donc, qu'est-ce que le ministre garantit au peuple congolais qui se trouverait en présence d'un expatrié qui n'obtempérerait pas à la mesure, à la loi prise par l'État congolais en faisant le petit commerce? Quelles sont les sanctions que le ministre prévoit à ce sens-là? Voilà un peu ma réaction et je suis en train de le remercier.
Merci Clément et un coucou à tous ceux qui nous suivent en Mbujimayi. Monsieur Jean-Paul Nemoyeto, vous avez suivi la réaction. Comment réagissez-vous?
Merci beaucoup. Vous savez, j'ai le grand problème. Tous les téléspectateurs ont raison.
les politiciens ont tellement parlé dans ce pays que nous n'avons la présomption de bon emploi. Par exemple, bon, vous savez, la démocratie aussi a ses conséquences. Vous avez vous-même suivi les employations de Bavon qui nous a appelé à partir de Mbujimaï. Il dit que lorsque les politiciens veulent se faire de l'argent, ils font des lois. Non, un minimum de bon sens à l'homme politique congolais. Moi-même qui vous parle, vous me connaissez. J'ai été député, je suis même député depuis 2006. J'ai été réélu. Et si le chef de l'État m'a donné ses fonctions, ce n'est pas pour faire de l'aventure. Nous sommes venus pour travailler. S'ils peuvent faire les cinq moments, c'est leur droit. Je pense que je ne me trompe pas de ce que je fais. Et je le fais encore mieux parce que je me concerte avec les partenaires sociaux, économiques. Et tout à l'heure, je vais le faire tout à l'heure. C'est parce que justement, les grands problèmes, toutes les interventions ici, reviennent à ce que mon frère Clément a dit à partir d'un bougie.
L'applicabilité.
L'applicabilité et la sanction. Je pense que ce sont des questions qui devaient nous préoccuper au cours de ce débat. Alors, si je dois me réunir avec les partenaires, c'est parce que nous voulons voir avec eux maintenant l'applicabilité. Nous avons terminé l'étape du moratoire de sensibilisation. C'est fini. Et donc, j'ai proposé toute une série de mesures d'accompagnement, n'est-ce pas, que je vais d'abord échanger. C'est la démocratie. Je ne peux pas imposer ça aux partenaires. Je vais échanger avec eux. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on va venir mettre une commission ad hoc qui sera chargée de nous proposer la nomenclature. On appelle le petit commerce de gros lorsqu'il s'agit de tel bien, c'est telle quantité, telle quantité, telle quantité. Lorsque nous bouclons cette étape qui est nécessaire, nous allons passer la vitesse supérieure, c'est-à-dire le ministère de l'économie qui a ses services au niveau de toutes les provinces. Au Bas-Congo, par exemple, nous avons été avec le gouverneur du Bas-Congo. Nous avons été avec le chef de division. Et je suis en contact direct avec les chefs de division de toutes les provinces. Ce qui fait que le paquet de mesures que nous allons prendre ensemble avec les partenaires tout à l'heure, la semaine prochaine, au plus tard, nous allons les transmettre à tous les gouverneurs de province et à toutes les sortes de divisions d'économie et même au niveau de la justice. De sorte que, à partir de la semaine prochaine, vous voyez, je suis encore jeune comme vous, j'ai la capacité, avec mes services, de descendre aussi comme les fonds de monde, n'est-ce pas, au niveau des différents marchés. Ce qui fait que, même sur RFI, j'en avais parlé que, après le moratoire, je veux prendre des mesures répressives. Même si mon ami de Mbujimaï a un doute avec raison. Mais je crois que j'ai les encouragements de tous les Congolais, en commençant par le numéro 1 du pays, qui m'a dit à des termes simples que, monsieur le ministre, je vous fais confiance, les Congolais veulent exercer le petit commerce, exclusivement, comme dit la loi. Vous savez,
donc, il n'y aura pas de poids de mesure.
À ceux qui doutent, oui. À ceux qui ont encore le doute, quelqu'un a dit que c'est de la distraction parce que nous, on n'a rien à faire. Je le concède, ça. Mais en fait, j'étais parce qu'il a dit dans sa présentation qu'il était membre du cabinet au commerce extérieur et, n'est-ce pas, à l'économie. Un peu de respect à celui qui pourrait aussi être premier ministre, monsieur. C'est-à-dire quoi? Est-ce que, monsieur l'ancien conseiller, Kamunga, trouvez-vous normal que dans un pays comme le nôtre, que, n'est-ce pas, un expatrié que nous avons accueilli avec toute notre hospitalité, il passe lui-même le commerce d'importation, les conteneurs arrivent. Lui-même, il fait le commerce du gros. Lui-même, il fait le commerce du semi-gros. Et lui-même, il vend les détails. Et les Congolais ne font rien. Vous trouvez que ça, c'est normal? Si vous avez été effectivement conseiller au ministère de l'économie, ne trouvez-vous pas que là, il y a le cumul de marges bénéficiaires? Et ça, c'est encore ça énerve la loi. Donc, nous voulons faire de la spécialisation. Les étrangers qui arrivent, parce qu'on ne peut pas quitter son pays pour aller faire les affaires dans un autre pays sans qu'on ait de l'argent. Ils ont de l'argent. C'est pourquoi ils font les importations et ils peuvent distribuer en gros. Mais, vous voyez, quand vous êtes au niveau de l'usine de planification IPAC, voyez-vous comment c'est depuis le mode de contribution. Oui, voyez-vous. Donc, l'usine produit le pain à grande échelle. L'usine elle-même, pour encourager les Congolais à faire des petites tables tout autour qui ceinture, ne soit ouais, pas.
Pour aider les
et donc, ils aident ces mamans-là, ils vendent le pain en détail, et le soir, ils viennent faire le versement. C'est vrai que j'ai dit aux Chinois. J'ai dit aux Chinois à ma table, j'ai dit non.
Donc, vous posez une question.
Vous pouvez, par exemple, vous constituer un dépôt de tous vos produits qui viennent de la Chine, et vous trouvez des Congolais qui peuvent s'installer tout à côté de votre dépôt, vous leur donnez le stock en gros,
comme ça,
donc c'est ça les mesures d'application que nous sommes en train d'élaborer, et d'ici là, lorsque nous allons publier les nomenclatures, ce qui fait que dans l'exécution, dont nous allons passer au contrôle, si nous trouvons les étrangers qui s'immixent, n'est-ce pas, dans le commerce de détail, c'est pas la tracasserie, mais la loi c'est la loi. Même dans leur pays d'origine, ce type de disposition existe, n'est-ce pas? Donc les Congolais qui se retrouvent en position d'étrangers dans d'autres pays, même en Afrique, ils ne sont pas permis de faire.
Nous allons prendre les auditeurs qui sont en ligne. Il y a Junior qui est à Luena au Katanga. Il y a également Prince qui est à Kananga. Voilà, Junior, nous allons vous demander de garder la ligne, hein, de garder l'écoute. On va vous prendre juste après le bulletin d'information. Et Prince également, donc nous vous demandons la même chose. Donc restez en ligne. Juste après le flash de bulletin d'information, nous allons poursuivre cette émission. Donc le quart d'heure qui reste avec le ministre pour que nous concluions.
Parle aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Voilà, nous poursuivons parole aux auditeurs, ce dernier quart d'heure, avec Junior qui est à Luena, au Katanga, et Prince à Kananga. Bonjour Junior.
Bonjour Pierrot.
Oui, c'est plutôt J.R. Lungembo. Junior, comment réagissez-vous par rapport au sujet du jour?
Bon, par rapport au sujet du jour hier, je dis que c'est une décision qui devrait être allégée de la part des expatriés, parce que il y a des milieux tels que le nôtre ici, où lorsqu'un expatrié œuvre ici, nous, la population, nous avons cette facilité de se procurer à un bon prix passable. Mais si c'est arrivé que la décision est prise par le ministre de la Sorte, on risque de beaucoup tuer les populations qui se trouvent dans les milieux ruraux tels que là où nous sommes, parce que nous avons nécessairement besoin de l'assistance des expatriés et ils amènent des produits différents de nos commerçants nationaux. C'est l'importance que les laisser œuvrer, même en des petits détails, c'est vraiment important pour eux qu'ils puissent quand même continuer toujours à œuvrer. Je pense que la décision va tomber sur la population locale et surtout sur cette population rurale telle qu'à Luena.
Voilà, merci Junior. Prince, vous êtes à Kananga. Bonjour Prince.
Merci, bonjour Junior.
Voilà, Prince, vous êtes avec nous?
Oui, je suis là.
Voilà, comment réagissez-vous?
Moi, je me suis dit que je me suis facilité pour poser une fois la beauté de la mettre en situation à faire pour appuyer sur le territoire. Je vous en ai pensé qu'il y a un bon
temps. Oui, là, vous sortez un peu coupé, Prince. On vous saisit à peine. Est-ce que vous pouvez changer un peu de position là où vous êtes?
Oui. Là, il y a une raison de vente. Je pense que je m'en vais vraiment. J'imagine toujours à la portée de contrôle de l'État. Par exemple, il y a un petit argent après toutes ces conditions. Donc, je vais juste acheter sur un peu de sucre comme vous l'avez fait la société. Vous voyez, au lieu d'acheter un sac de sucre, on vient pas acheter un sac de sucre en ajoutant pour chaque 2 200 francs et pour avoir.
Ben voilà, Prince, on sera obligé d'interrompre cette communication avec vous parce que vous sentez vraiment très coupé. Excellence, Monsieur le Ministre, vous avez suivi quand même les interventions des auditeurs avant même le bulletin d'information. Tout le monde revient sur l'applicabilité. Et là, ça nous pousse quand même de poser une question de curiosité. Aujourd'hui, c'est vrai, le secteur informel est très très envahi par les nationaux. C'est pratiquement une façon de vouloir se mettre à l'abri du manque. Et le détails, voilà, tout le monde est là, tout le monde est dans, dans les détails. Est-ce que cette mesure, c'est une façon aussi d'encourager le secteur informel?
Merci beaucoup. Nous sommes dans, il y a même une direction de l'économie informelle dans le ministère. La logique de notre souci serait que nous puissions formaliser, parce que le secteur informel, il devient de plus en plus important. Selon une enquête qui a été faite dans la ville de Kinshasa, sur 100% de la population active, il n'y a que moins de 5%.
Oui, c'est ça, des postes de bois et qui d'ailleurs plusieurs ouvrages.
Et donc, notre souci, c'est que il est possible que par l'exclusivité du petit commerce, comme c'est l'État qu'on donne aux Congolais, on puisse les formaliser pour qu'ils contribuent aussi au développement du pays. Mais tout à l'heure, Junior est revenu sur la même question, j'avais oublié de répondre, qu'un auditeur nous a appelé, nous a posé à partir de Bungu, je crois.
Tout à fait.
Qu'est-ce que nous faisons du monde rural et surtout des zones frontalières qui, du fait de la proximité, il y a des étrangers qui viennent avec des produits qu'ils vendent en détail, autant que les Congolais vont aussi dans différents pays voisins pour faire la même chose. Honnêtement, je dois vous avouer que dans mon cabinet, je n'ai pas encore perçu la pertinence de cette question, mais ça attire mon attention. Tout à l'heure, au cours de la réunion, je vais verser cette question dans la commission ad hoc pour que, en prenant compte surtout les conséquences, comme Junior a dit, qu'au niveau de l'UENA, il y a des expatriés qui sont là, qui vendent. Alors, si je prends des mesures comme ça, ça risque de créer un problème à l'endroit de la population que nous prétendons. En fait, c'est un détail important, je vais prendre ça en compte, encore que moi-même, j'ai été pendant très longtemps un député rural. Voilà. Alors, le prince de Kananga, même s'il sortait en découpé, mais j'ai compris qu'il voulait parler comme les autres, de dire que malgré le moratoire, les étrangers continuent à faire le
travail.
Et donc, sincèrement, à la fin du moratoire, il n'était pas aussi possible que vous puissiez voir du jour au lendemain ces changements. Ça prend toujours du temps. Je vais donc, avec mes partenaires, trouver toute une série de mesures d'encadrement. Alors, nous allons les publier. C'est à la publication que nous allons maintenant déployer les mécanismes de contrôle. La loi, c'est la loi, même si elle est dure, mais les pénalités qui sont prévues dans la loi, ceux qui vont tomber dans les infractions transactionnelles, ils vont payer des frais. Nous voulons aussi financer notre programme.
Oui, donc si je comprends bien, les décisions qui sortiront de l'évaluation d'aujourd'hui seront imposables à tous, et là, ça sera vraiment une décision concertée avec les partenaires. Donc, ce ne sera pas unilatéral.
Oui. Nous travaillons vraiment avec. Nous sommes encouragés par le public. Aujourd'hui même, je pense qu'après la rencontre de tout à l'heure, je vais être l'invité du journal, je crois. J'ai envoyé mes services pour qu'il soit invité du journal sur RTNC. Et en fait, je suis toujours là. Voyez-vous, quand vous m'appelez, j'abandonne tout, je viens très vite pour répondre parce que vos questions sont tellement précises. C'est en direct. Les intervenants, quand ils posent des questions, il faut leur répondre.
Que Aliena, on vous a parlé de l'Olympique par rapport à ces détails sur les frontières. Là, au moins, on a une idée, on a une vue panoramique sur le pays. On sait qu'est-ce qui se passe. C'est pourquoi la question a été posée dans votre milieu. Qu'est-ce que vous constatez et qu'est-ce que vous proposez? Il y a un certain nombre de propositions et ça vous aide tellement au niveau des
vous voyez, cher ami, ma motivation, c'est que nous sommes un pays essentiellement jeune. Voyez-vous, quand vous êtes ici au mois de juin-juillet, vous voyez dans toutes nos universités le nombre de diplômés qui sortent et pour lesquels nous n'avons pas encore la capacité de leur trouver de l'emploi. C'est pourquoi nous estimons qu'à travers le petit commerce, le commerce de détail, ce sont des structures de survie qu'on peut momentanément mettre à la disposition de nos jeunes amis qui terminent en attendant qu'ils trouvent mieux. Donc, quelqu'un qui avait dit que c'est de la distraction que nous faisons, il a eu tort de le dire parce que tout à l'heure, je venais de montrer que quand on donne à l'étranger la possibilité de faire l'importation, le gros, le semi-gros et les détails, il n'y a qu'une démarche de bénéficier et c'est là aussi, ça énerve la loi.
Voilà, vous avez parlé de la nomenclature qui va sortir, des produits qui sont soumis, au commerce de détail. Et c'est vrai qu'il faut une vulgarisation, il faut que la population soit également informée. là, il y a un auditeur qui a proposé d'ailleurs au ministère de l'économie si on peut penser déjà à un vade mecum de l'exercice du commerce en RDC, comme ça, que ça serve de feuille de route hein, pour les partenaires qui viennent investir au Congo.
Oui, cela me permet de penser à ce que moi-même, à un exercice auquel j'ai été soumis ce matin. Tous les membres du gouvernement, nous avons été pour faire un engagement de code d'éthique de l'agent public. Cela me permet de penser aussi à faire le code, n'est-ce pas, de l'exercice du commerce, un code de comportement. Quand vous exercez le commerce au Congo, quelle éthique allez-vous observer, tant les étrangers que les Congolais? Parce que les Congolais qui doivent bénéficier du commerce de détail, ce n'est pas les libertinages que nous leur créons. Parce que vous ne pouvez pas aller acheter des marchandises dans un gros et vous venez, vous mettez le prix de vente qu'on vous voulez. Il faut respecter la marge bénéficiaire, telle que la loi le prescrit. Ce qui fait que même les Congolais qui vont faire les commerces, les petits, les commerces de détail, mais eux aussi, nous, ils sont soumis, n'est-ce pas, au respect de la loi parce qu'ils ne peuvent pas librement comme ça fixer des prix de vente au-delà de la marge s'ils le font. Et donc, eux aussi, ils sont poursuivables.
Ils sont poursuivables. Nous allons attendre peut-être la réunion de tout à l'heure, la réunion d'évaluation avec les partenaires pour nous faire déjà une idée sur la suite. Donc, vous avez dit, le moratoire est fini. C'est maintenant l'heure est à la concertation avec les partenaires pour voir dans quelle mesure vous pouvez faire sortir donc des mesures pour, réglementer l'exercice de petit commerce en République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, ça vous a inspiré de penser aussi à un code de l'exercice du commerce en RDC qui pourrait être sorti très prochainement. Merci, Monsieur Jean-Paul Nemoyato. Nous rappelons que vous êtes ministre de l'économie et commerce, d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir orienté les auditeurs et même sur la question sur le moratoire et ce qui sera suivi par après. Donc encore merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt.
Je vous remercie, monsieur. Au revoir.
Voilà, merci également à Sylvain Matungu qui a assuré la mise en onde de cette émission, Titi Poutou et Pierre Lamézi l'ont réalisé. Et J.A. Lungembo vous l'a présenté sous la supervision de Nicole Gaka. L'info continue sur notre site web. 10 ans après son entrée en vigueur, la société civile congolaise estime que les codes miniers actuels comportent beaucoup de faiblesses et doivent être révisés. De membres d'ONG locales, les leaders religieux, des chefs coutumiers et d'autres membres de la société civile des Kassa et du Katanga s'étaient réunis à Lubumbashi le 5 juillet courant autour de cette question. Parmi les principales faiblesses de ce code, il y a notamment la faible contribution des investisseurs dans l'économie nationale. Selon vous, cette révision va-t-elle contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population? C'est la question qui occupera le centre de débat de Parole aux auditeurs demain. Inscrivez-vous déjà pour participer à cette émission. Et aussi, nous faire parvenir vos réactions à pa@radiocapi.net.